France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Stéphanie Doustrac, née à Rennes un 27 juin 1974 et je suis artiste lyrique.
Vous allez en fait finalement beaucoup bouger, Stéphanie Doustrac, parce que il va y avoir les années de pension et puis ensuite cette vie à Rennes où là vous êtes chez vous et puis vous allez partir à Lyon encore une fois
parce que ma grand-tante Martine de Turckheim y habitait. Et donc, comme c'était un peu la seule qui était dans le milieu, enfin qui connaissait en tous les cas, qui avait des connexions, qui connaissait des gens, elle m'avait trouvé une prof de chant particulière, et je suis rentrée au conservatoire à Fourvière, donc c'est le conservatoire de région. Petit à petit, il faut aussi apprendre la discipline du travail vocal. C'est pas venu tout de suite, en fait. Moi, j'ai quand même pris des cours très tôt, hein, mais pour avoir une forme de maturité, je dirais, intellectuelle, pour relier le travail du corps avec la voix, parce que tout ça se tient, mais bon... Ben, ça prend un certain temps, je pense. Et moi, j'étais beaucoup plus dans l'instinct, dans le faire tout de suite, dans l'énergie. Donc j'ai l'impression que malgré tout, je travaillais, hein. Je travaillais techniquement, je travaillais mes morceaux, mais je ne pense pas que j'avais une maturité encore suffisante pour vraiment installer les choses. Et j'ai présenté justement à Lyon, j'ai fait un an donc de conservatoire. Tout à coup, on me parle de CNSM. Donc je le prépare et puis j'y suis rentrée.
Et alors là, Stéphanie Doustrac, vous confrontez à une grande école nationale supérieure, plein de disciplines, des camarades.
Ouais. Alors c'est là où c'est quand même formidable. Alors je ne connais pas Paris, hein. Je ne connais pas Paris, mais j'ai vu par exemple que ce soit Vienne où on avait été en voyage. Il y a tout un pôle qui est en fait que pour les chanteurs. Donc les chanteurs sont entre eux. Là à Lyon. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on est tous mélangés, tous les musiciens. Bon, alors bien sûr que les chanteurs, on est quand même, en général, au niveau solfège, c'est niveau insuffisant, ce qui est quand même très agréable. Déjà, tu démarres avec ça. Là, il y a quand même il faut repenser un peu, je pense, au niveau de l'éducation, les termes que l'on emploie. C'est vrai qu'insuffisant, mais par rapport, enfin voilà, mais c'était vraiment ça. Ça s'appelle insuffisant. Donc moi, finalement, solfège insuffisant. Donc le CNSM, j'ai rencontré surtout Pascal Jourdan. Mon ami pianiste avec qui je travaille, on a première année, j'arrive, etc. Et puis lui, au cours de l'année, vient me voir et me dit, écoute, voilà, on se connaissait pas, hein, mais écoute, voilà, j'aime bien ce que tu fais. On me propose une tournée en Alsace. Est-ce que ça te dirait qu'on monte un récital et on fait la tournée?
Yes, mais évidemment, quoi, mais évidemment.
Et donc, on a pris les œuvres les plus difficiles qui soient. On y va. L'opus Schumann, opus 39, Liszt, il y avait la Lorelei. Alors, on avait Clara Schumann. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait fait aussi L'amour et la vie d'une femme. Mais vraiment, en allemand, évidemment. Hein, ça aurait été trop simple. On y est allé. Mais alors, la fleur au fusil. Et puis, voilà, un répertoire très, très exigeant. Mais ça a été formidable. Et c'est quand même drôle parce que là, cet été, on s'est revus avec Pascal, enfin, on le voit souvent, et on les a retravaillés. On fait les mêmes erreurs d'ailleurs qu'il y a 20 ans, mais c'est là, c'est encore inscrit. C'est totalement inscrit tellement on les a travaillés. Et donc ça a été le début de cette rencontre qui est fondamentale pour moi parce que c'était la découverte du récital et d'une équipe. Voilà, avec Pascal, on grandit ensemble, quoi. On passait des répétitions dos à dos pour qu'il respire avec moi. Enfin, pour que lui, pianiste, il respire pas les pianistes. Ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas besoin. Donc voilà, c'était vraiment, on a travaillé ensemble avec Ruben Lifshitz qui était pianiste et qui faisait travailler des duos de récital. Donc après, on a fait Royaumont, on a fait en duo. Mais et puis avec d'autres chanteurs évidemment et d'autres instrumentistes, même des compositeurs. C'est là aussi où j'ai rencontré des compositeurs. Mais la structure est petite aussi, donc très vite la musique de chambre, les bas des cases de Ravel, enfin tout ça, j'en ai mangé des partitions. Travailler ensemble, d'avoir toute cette structure autour de nous, c'est un luxe énorme.
Elle vient. J'ai reconnu la respiration précipitée que donne une marche rapide. J'entends le froissement de la panne qui l'enveloppe. C'est elle.
Là, on n'est pas encore dans l'opéra. Finalement, vous y étiez beaucoup à Rennes. Et là, quand vous arrivez à Lyon, vous vous en éloignez et vous découvrez toute une autre partie du cercle chromatique du chanteur, cette partie plus intime aussi.
Musique de chambre, récital. Un peu d'opéra tout de même, puisqu'on avait été, j'avais fait Schliemann de Betsy Jolas à l'opéra de Lyon. J'étais dans les grandes, mais il y avait 12 jeunes filles et on avait des petites parties comme ça, d'ensemble et solistes. Donc ça a été ça mon expérience d'opéra à ce moment-là. Mais sinon, c'était beaucoup plus des concerts. On était rentré pour les structures à Lyon qui avaient besoin de solistes. Et ben voilà, on fait des concerts, d'oratorio. J'ai fait plus d'oratorio d'ailleurs et de récital, musique de chambre que évidemment d'opéra.
Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué en termes de découverte de répertoire?
Ça a été une période où on explore le répertoire, mais de manière très très vaste, très très vaste.
Ça, et vous étiez boulimique.
Ouais. Ah bah oui, d'ailleurs, quand je vois la vie d'étudiante, de certains, où on sort, etc., nous, mais je... Pas du tout. Et ça manque pas. Enfin, je veux dire, on était, on répétait, on faisait des... c'est une boulimie, répertoire, musique de chambre, récital. Dietrich Fischer-Dieskau, mais qu'est-ce que je l'ai entendu, parce qu'il a tout enregistré quasiment dans le répertoire, surtout allemand, mais Wolf, tout, j'ai entendu ses Schubert, mais... Ouais, on a énormément exploré.
Et en figure féminine, les chanteuses peut-être un peu tutélaires pour vous, Stéphanie Doustrac?
Pas encore à ce moment-là. Et je pense que ça m'a peut-être protégée, parce que souvent, et c'est un peu le problème, c'est qu'on veut copier nos figures tutélaires. Et très souvent, je me retrouve confrontée maintenant en tant que prof à des jeunes chanteurs, et je leur dis, mais là, tu chantes pas avec ta voix, quoi. Là, pour moi, il y a quelque chose que tu fabriques. Un peu, alors la voix de chanteur est fabriquée, mais là ça correspond pas à ce que je... moi j'ai envie de t'entendre toi. Et en fait, parce qu'ils écoutent, mais combien de chanteurs écoutent un tel, donc naturellement notre oreille, notre corps va copier. Et donc j'écoutais beaucoup, mais en fait je pense que j'écoutais différents chanteurs en fait. Et je n'ai pas eu de grande, bien sûr, Callas. Mais j'ai beaucoup écouté, comme je n'avais qu'un enregistrement, c'était Schwarzkopf. Et pourtant, Dieu sait que c'est pas la plus belle voix, mais elle m'est restée dans Strauss, je l'ai quand même en référence parce que c'était mon enregistrement, l'enregistrement qu'on m'avait offert. Et puis après, j'ai moi Friederike von Stad, que je trouve, sublime, d'engagement. Alors elle, il y a l'engagement scénique. Enfin, on sent vraiment la générosité scénique et vocale. Margaret Price. Le type de voix que j'aime mais d'amour, c'est Margaret Price en récital. C'est enveloppant, c'est très rond et en même temps très fin, très précis. Là, elle, je l'ai découvert justement dans les Schubert, dans les... Oh, et je... Mais c'est le problème, c'est que je veux faire comme elle. Donc après, il faut s'en séparer. Essayer de faire comme on peut.
Maschi pregunte stampo tra il na 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 in meno casa schibrando di un risalire canto tra il na 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 e sembra il debajo mio che siga sablando perché hai cose che contesto io sempre cantando tra il na 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 na
Les professeurs que vous avez à Lyon, Stéphanie Doustrac, vous avez évoqué la figure de Lifshitz, je crois que Karine Dehaie,
Stéphane Degout,
voilà, c'est ça. Comment est-ce que vous pourriez nous parler de cette figure-là, de ce qu'il a apporté de...
Rouben, c'était de trouver toujours une forme de liberté, d'inventivité dans le répertoire du récital. C'est quand même beaucoup comme ça d'essayer de le vivre. On a beaucoup travaillé les fiançailles pour rire, même enfin le répertoire allemand qu'il connaissait très bien. Donc c'était d'être vraiment dans l'action en fait. Il y avait quelque chose de très autant pour le pianiste d'ailleurs que pour le chanteur. J'avais Glenn Chambers aussi qui m'a énormément. Je l'ai eu pendant 3 ans, qui m'a fait beaucoup travailler justement notre récital, qui était très grand musicien. J'ai eu Jacqueline Bonardeau pendant 1 an avant qu'elle ne parte à la retraite, mais quand même grande figure du monde, enfin de professorale déjà de chant, qui a écrit des bouquins, etc. sur le répertoire. Donc ça a été assez varié. Et il y avait Marc Rethonig qui était prof aussi au CNSM, mais moi je ne voulais plus de femmes. J'en avais eu quelques-unes. Que je trouvais un peu, enfin voilà, c'est compliqué en tant que femme de garder la bonne distance élève-prof. C'est compliqué. Et je voulais un homme. Je préférais un homme qui est plus calme. Et Margaret Honig, c'est Glenn qui m'a dit au bout de la troisième année, tu devrais peut-être aller voir Margaret, elle pourrait t'aider aussi maintenant pour aller plus loin. Et bien, grande rencontre aussi. Margaret, ça a été très, très important aussi. Tous, je dis merci parce que ça nous construit. Je veux dire, on ne se rend pas compte. Moi, maintenant que je suis prof, c'est parfois très ingrat comme on peut nous taper dessus. Mais en fait, parce qu'on construit une personnalité, on aide en fait à la construction plutôt d'une personne, d'un artiste qui a déjà le potentiel, évidemment. Mais après, nous, en tant que prof, il y a des étapes. Donc parfois, si on quitte le prof à un certain moment, mais peut-être parce qu'il est en train de nous faire travailler une certaine étape de l'évolution, enfin pour accéder à autre chose. Et parfois, l'élève n'est pas encore mature, suffisamment mature pour aussi comprendre ce que le prof a envie. Enfin bon, donc c'est compliqué cette relation aussi prof-élève. Mais je dois dire que voilà, j'ai été à ce moment-là, en tous les cas, elle est arrivée dans ma vie à un moment crucial où elle m'a vraiment permis d'installer la technique en adéquation avec mon mental, etc. Là, j'ai l'impression que j'ai été pleinement réceptive. À ce moment-là, je devenais vraiment une chanteuse. C'est-à-dire que je pouvais accéder à ce qu'elle me disait techniquement, que ce soit beaucoup plus conscient que peut-être les profs avant, malheureusement. Je pense que je les faisais, ça, il y avait plein de choses. C'était beaucoup plus diffus. Le printemps
Et c'est marrant ce que vous disiez, Stéphanie Doustrac, sur ce couple de femmes, du professeur et de l'enseigné. Là, c'était le bon âge aussi, vous diriez ? C'est parce que vous aussi, vous aviez trouvé l'ancrage
Il y a une phrase que ma grande tante, justement, m'avait dit. On rentre dans la carrière comme on rentre dans les ordres. Alors, tu entends ça à 17 ans, 18 ans. Tu te dis, bon, alors, quand on rentre dans les ordres, il faut être passionné, on se donne entièrement. Et ben, je pense que j'ai trouvé une manière de me donner entièrement comme j'aspirais à quelque chose d'aussi grand, aussi fort, aussi que peut être la spiritualité, je crois. Et ça fait son chemin, en fait. Et je me suis dit, au vu de certaines professeurs que j'ai pu rencontrer et qui ont tout dédié à la carrière. Et ça passe plus vite qu'on ne le pense. Pas d'enfants, pas voilà. Et donc, il y a un rapport qui se crée de dépendance face au métier, face au regard de l'autre. On a besoin. Moi, je sais que ma fragilité, c'est les applaudissements. J'ai besoin, à la fin, ou en tous les cas, moi, j'ai besoin des applaudissements. C'est un peu le retour par rapport à ce que je donne, en fait. Et là, après, quand on devient prof, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit à défaut. Il faut que ce soit pour les bonnes raisons. Et c'est compliqué parce que des personnes qui ont vécu dans la lumière pendant un certain temps et qui n'y sont plus, cherchent à le vivre au travers de leurs élèves. Et quel que soit ce que tu as vécu, il faut être très conscient, si tu as eu des frustrations, pour ne pas les répercuter comme en tant que parent. Moi, ça m'aide aussi d'être parent pour être un meilleur prof, je pense. Et vice-versa, d'être prof pour être peut-être une meilleure mère maintenant, de temps en temps. Ce sont des rapports qui sont, parce que le champ, on peut accéder à l'intimité, aux failles, ou à la personne en face de manière tellement intime qu'il faut être très respectueux. Je découvre ça, j'aime ça passionnément, mais le rapport que j'ai eu avec certaines femmes profs, je n'ai pas aimé. Le fait que j'ai eu cette phrase-là très tôt m'a permis de me positionner et déjà d'y réfléchir et de me dire, ok, non, je pense savoir en tous les cas ce que je ne veux pas être. C'est beaucoup plus facile de se positionner et puis après de trouver son chemin. Depuis très tôt, je me suis toujours dit comment est-ce que je veux mourir. Et en fait, construire sa vie par rapport à cette fin qui est possible. Alors bien sûr que je sais que je peux mourir demain, mais justement, c'est que chaque jour, je dois pouvoir me dire je ne regrette rien. Et c'est pour ça que quand je monte sur scène d'une certaine manière, c'est de se dire ouais. On a trop de chance d'être là et il faut le vivre. Et ça rejoint la méditation, c'est-à-dire d'être pleinement là quand on, d'être totalement dans ce que l'on fait, d'être totalement incarné. Et je pense que le chant, moi, m'a permis le théâtre et le chant m'a permis de devenir de plus en plus incarné.
Et quand vous vous dites « je sais très bien comment je veux mourir », ça vous permet de vivre avec sérénité l'idée que, par exemple, un jour, peut-être, vous ne chanterez plus, vous n'aurez plus ce canal-là d'expression ?
Déjà, j'ai failli le perdre, à cause de l'asthme. J'ai eu un traitement pendant un an et demi, en fait, contre l'asthme, parce que ça a recommencé il y a 15 ans. Et donc, j'ai eu un traitement, mais c'était de la poudre de cortisone et ça m'a créé des nodules. Donc, j'ai forcé, je ne l'ai pas vu tout de suite non plus, je ne l'ai pas senti, etc. Et autre rencontre fondamentale dans ma vie d'artiste, de chanteuse, c'est Bernard Roubaud, un orthophoniste. Je suis tombée dans ses mains grâce à mon ORL, c'est des belles rencontres. Et Gérard Chevellé, qui a fait ma première opération des cordes vocales, avant que je ne me fasse opérer, on a fait un travail avec un orthophoniste, donc Bernard, pendant 3-4 ans. Et j'ai redémarré avec lui totalement on a tout remis à plat. C'est-à-dire que je travaillais, hein, puisque je ne me suis jamais arrêtée. Finalement, ma carrière ne s'est jamais vraiment arrêtée, à part, ben non, même pas ma fille, je me suis arrêtée 3 mois, 4 mois. L'opération, sinon, 6 mois, et le reste, quasiment jamais. Mais cette rencontre, en fait, on a reposé, c'est-à-dire que j'avais des spectacles, hein, je montais sur scène, mais de temps en temps, je ne savais pas exactement ce que je pouvais faire vocalement, parce que j'en étais arrivée à un tel forçage vocal que mes muscles, et petit à petit avec lui, on a détricoté, enlevé, enlevé, enlevé. Et donc de retrouver la confiance, parce que c'est ça, le grand mot en général en chant, c'est la confiance, que pourtant, hein, j'avais, a priori, voilà, c'était une inconscience et une confiance. Et d'installer cette vraie confiance, après, de savoir exactement ce qu'il fallait que je fasse. Mais j'ai tout réappris avec lui en 3-4 ans.
C'est pour ça que vous dites que ça fait seulement une quinzaine d'années qu'en fait vous avez conscience de cette enfin, pas de cette discipline, mais ouais, du travail. Ouais.
De l'adéquation vraiment du geste juste, en fait, de l'ensemble des équilibres qu'il faut respecter pour que la voix sorte, mais avec son tranquille, quoi. Donc, de toute manière, elle sera jamais tranquille parce qu'on a le trac, parce qu'il y a le tempérament, il y a ce qu'on a envie de jouer, bien sûr. Mais il faut quand même, voilà, travailler en amont suffisamment pour que toute notre machinerie, et c'est absolument pas justement les cordes vocales, le larynx, c'est au contraire, c'est partout ailleurs. Et de répartir en fait la charge, de répartir l'effort partout ailleurs et de moins, le moins possible finalement sur les cordes vocales. Mais tout ça, j'ai réappris. Et ça, en des séances d'une demi-heure, trois quarts d'heure, à faire des ha, 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 et de souffle. Juste la connexion des cordes vocales ou rien que du souffle. Que des choses comme, que j'ai réappris à faire. Parce que j'étais là, je me grattais la gorge tout le temps, le stress. Donc c'était là, je grattais. J'attaquais le son. Parce que comme on a, quand on a quelque chose, quand on a un nodule sur les cordes vocales ne se joignent pas tout de suite. Donc moi, pour avoir le même effet que, eh bien, il faut qu'on force, en fait, la connexion des deux cordes. Donc nous, tous les muscles qui sont connectés avec les cordes vocales, c'est pas que les cordes vocales, c'est tout autour, et vas-y que je serre les cordes vocales. Donc ça crée que des tensions partout. Et j'ai appris petit à petit, mais des séances par-ci, par-là, avec Bernard, parce que ça pouvait pas être tout le temps non plus, etc. Et puis de temps en temps, je disais, oui, mais là, sur scène, je dois... Il était là, mais... Non ? Pas encore maintenant. Enfin, je veux dire, ça va venir, mais... Et après, je me suis mise à chanter avec lui, mais 2-3 ans après. C'est très formateur. C'est-à-dire ces années où là, je dirais que c'est quand même le tunnel. Bah, Armid, je viens de me faire opérer. C'était après, j'avais eu 6 mois de repos, 6 mois opération des cordes vocales, enfin voilà, de retrait. Et là, ma vie a été transformée. Enfin, je veux dire, tout à coup, enfin là, c'était vraiment là, une nouvelle vie d'artiste et de liberté que je retrouvais, quoi.
Stéphanie Doustrac et les arts florissants dirigés par William Christie dans Armid de Lully. C'était le 3e épisode des Grands Entretiens avec Stéphanie Doustrac. Réalisation Olivier Guérin, prise de son Georges Thau, mixage Philippe Mercher, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.